Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Cop Paris, votre rendez-vous tous les lundis avec le PSG sur BFM Paris, Île-de-France, avec un invité d'honneur. Ce soir, il connaît bien cette petite musique, monsieur Fabrice Pancrate. Salut Fabrice.
Salut, merci de m'avoir invité.
Immense plaisir vraiment de t'avoir à nos côtés ce soir. À tes côtés, elle a assisté à tes buts, à tes débordements sur le côté droit au Parc des Princes.
Oui, j'étais là.
Aurélia Grossman, supportrice du PSG. Salut Aurélia. Farid Rouas, journaliste sportif, complète ce casting. Bonsoir Farid.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
On y va pour le sommaire, retour sur ce PSG Nantes mitigé samedi au Parc des Princes. Match nul, les sifflets du parc et les mêmes problèmes d'efficacité qu'en Ligue des Champions. Luis Enrique est-il toujours le bon entraîneur pour le PSG? C'est la question que l'on vous a posée sur le hashtag Cop Paris. Focus sur sa méthode qui crée de plus en plus le débat. Et puis le PSG au Parc des Princes, c'est fini, c'est en tout cas la position ferme désormais de QSI. Quel projet, quel stade et quel sens finalement à tout ça? On en parle dans la troisième partie, enfin, comme tous les lundis, les résultats de vos clubs franciliens omnisports. Cop Paris avec Fabrice Pancrate, c'est parti. Bon, dans Cop Paris, on fait bien les choses. Notre invité ce soir a porté les maillots des deux clubs qui s'affrontaient samedi soir au Parc des Princes. Alors déjà, ôte-nous d'un doute, Fabrice, est-ce que tu étais un petit peu tiraillé samedi soir entre tes deux clubs, tes deux anciens clubs?
Quand c'est comme ça, je suis toujours neutre. Je suis toujours neutre. Et d'ailleurs, j'ai sorti un bon pronostic.
Ouais.
Parce que j'avais prédit un match nul.
Partage des points.
Partage des points. Et puis, la logique aurait voulu que Paris gagne parce qu'ils sont premiers du classement. Mais en même temps, Nantes était au pied du mur. Donc, il fallait un résultat.
Ouais, t'étais pas mécontent pour Nantes et peut-être pour Antoine Comboy.
Il fallait un petit déclic aussi, j'espère, pour la suite, pour qu'ils sortent de cette zone.
On va rappeler ton parcours au Paris Saint-Germain où tu as passé 5 ans, alors entrecoupé de quelques prêts, 132 matchs, 14 buts avec Paris, vainqueur de la Coupe de France en 2006. Tout simple, ton meilleur souvenir au PSG, Fabrice?
Ma signature. C'est la base, je dirais, parce que comme tout joueur de football, tu veux jouer dans les plus grands clubs français dans un premier temps. Et puis Paris Saint-Germain est arrivé à la suite d'une très bonne saison avec Le Mans.
Mm-hmm.
Donc ma signature au Paris Saint-Germain reste quand même...
C'est un rêve d'enfant, toi, qui viens de Paris, du 14e, si je dis pas de bêtises?
Ouais, du 14e, c'est ça. Oui, c'est un rêve d'enfant, parce que on aspire tous à être footballeur professionnel dans un premier temps.
Mm-hmm.
Et puis, plus il y a affinité, on va dire. Donc, Paris Saint-Germain fait partie de ce trio de tête, je dirais, des gros clubs français auxquels je voulais arriver dans mes rêves. Et puis, j'ai réussi à l'accomplir.
PSG Nantes, on y vient, celui qui avait lieu samedi soir au Parc des Princes. On va revoir les images, les amis, avec cette ouverture du score. Précoce, deuxième minute de jeu, centre de Nuno Mendes, déviation de Ramos et finition d'Hakimi. Le PSG mène 1-0 jusqu'à la 38e minute. Et alors ce petit numéro de Mathis Sablin qui enrhume Pacho avant d'aller ajuster Donnarumma. Et puis le PSG ensuite, on va voir les actions défiler. Ribambelle d'occasion, 24 tirs au total pour au final un match nul, un but partout, Farid. Aurélia, même cause, même conséquence qu'en Ligue des Champions, ça y est, le manque de réalisme, c'est aussi en Ligue 1 désormais?
Voilà, là, on a carrément pété le record depuis 2006-2007, je crois, de possession de balles. On a eu 84% de possession pour 24 tirs et un but. C'est-à-dire que là, on peut parler de... C'est pas un manque de réussite. Ouais. Là, on a un problème vraiment en attaque. Enfin, on a un problème de réalisme tout court. Et puis cette histoire, là, j'ai vu Enrique qui parlait de... Ça y est, il y avait un numéro 9 puisqu'il y avait Ramos. Mais Ramos, il revient de blessure.
Il peut pas s'en faire.
Et il n'a pas les automatismes avec les joueurs qu'il aurait s'il jouait depuis le début de la saison. Et si on jouait depuis le début de la saison avec un numéro 9, les autres joueurs aussi auraient d'autres automatismes. Donc je trouve que c'est un peu un faux discours. On a quand même vu Ramos au début du match faire ce qu'on attend de lui.
Ouais.
Et moi, j'espère qu'il va rester un maximum de temps sur le terrain sans se faire sortir par Enrique ni sans se reblesser, pour qu'on puisse vraiment voir ce que ça vaut le PSG avec un numéro 9.
Farid, ce PSG Nantes?
Oui, c'est vrai que le Paris Saint-Germain a été stérile, peu inspiré sur le plan offensif, a rejoué, comme l'a très bien dit Aurélie, avec un numéro 9, on y était plus habitué.
Mmh.
Je pense que le Paris Saint-Germain aurait pu jouer pendant des heures sans concrétiser. Le Paris Saint-Germain a traversé cette soirée face au FC Nantes sans éclair, sans fulgurance. Mais on peut retenir du positif. Déjà, le Paris Saint-Germain n'a pas perdu, que je sache. Est toujours invaincu en championnat. Donc, on peut mieux faire.
Le PSG sifflé quand même par une partie du public du Parc des Princes en fin de match. Sanction qui n'est pas passée inaperçue chez les joueurs. Comme nous l'a expliqué Warren Zaïre-Emery. On l'écoute.
J'aurais à entendre, mais On doit faire mieux, on a les capacités de faire mieux. Des fois, c'est normal et ça peut nous booster aussi et nous redonner les capacités qu'on a et nous pousser à faire mieux pour eux.
Fabrice, les sifflets du parc, tu les comprends et ça a quel effet sur un joueur du PSG ?
Ouais, je les comprends parce qu'il y a encore cette frustration avec des champions, tout simplement, qui fait qu'à la suite de ce rendez-vous d'hier, ils pensaient que Paris l'emporterait haut la main. Mmh. Mais la vérité était tout autre. Et les sifflets, on peut dire qu'ils sont justifiés par rapport à leur attente. Mais sur l'impact, je ne crois pas que ça joue plus que ça sur un joueur. Ça peut l'être dans une situation compliquée. Là, Paris est premier du classement. C'est différent, mais c'est sûr que ils ont conscience qu'ils peuvent mieux faire et qu'ils doivent mieux faire.
On sent des supporters un petit peu divisés en ce moment entre ceux qui veulent faire preuve de patience et puis ceux qui commencent à s'impatienter. Vous situez où, Aurélia ?
Moi, je ne siffle jamais mon équipe, donc voilà. La frustration de la Ligue des Champions, c'est plutôt la frustration générale du jeu du PSG depuis le début de l'année, je pense. On a un vrai souci avec le jeu. On aura un débat plus tard sur les causes.
La méthode.
On peut chercher les méthodes. Est-ce que c'est l'entraîneur ? Est-ce que c'est l'encadrement ? Est-ce que c'est les joueurs ? Moi, je crois surtout que siffler ces joueurs-là, ça n'a pas trop de sens parce que je trouve que surtout, ils donnent un peu le maximum de là où ils en sont. On n'a pas des très très grands joueurs sur le terrain. Donc on ne peut pas demander à ces joueurs qui sont soit en devenir, soit des joueurs moyens. Je veux dire, un Ruiz, ce n'est pas un grand joueur. Et un Barcola, c'est un gamin qui débute. Moi, je trouve que par exemple, Barcola, le nombre de matchs qu'il a joué, la pression qu'il a eue par rapport à son âge est totalement anormale. Donc c'est normal qu'il ait un coup de moins bien. Je lui jette pas du tout la pierre maintenant. Au contraire, je me dis, il a un coup de moins bien, c'est à nous de le soutenir.
On va en reparler un petit peu de Barcola, sur les top flops justement de ce PSG Nantes. Achraf Hakimi, le top. Barcola, tu l'as déjà devancé. Le flop juste, Achraf Hakimi, quelques stats pour le Marocain cette saison. Quel joueur le plus utilisé de l'effectif ? 3 buts et désormais 4 passes décisives. Farid, on a l'impression, la sensation que c'est un vrai taulier, le joueur le plus régulier cette saison.
Exactement. Deuxième but en Ligue 1, troisième but dans la saison. En effet, c'est j'aime beaucoup le profil. Déjà, c'est quelqu'un qui est ultra rapide, qui fait les efforts défensifs et offensifs, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Je trouve qu'il a changé de dimension cette saison. C'était le camarade de classe de Mbappé. Il est resté. Je crois qu'il a prolongé jusqu'en 2029. Oui. Donc c'est de bon augure pour l'avenir du Paris Saint-Germain. Et voilà, il prend les commandes du Paris Saint-Germain, même si c'est un défenseur.
Il y en a pour lesquels c'est compliqué de s'adapter à Luis Enrique. Lui, on sent qu'il s'éclate avec Luis Enrique et Achraf Hakimi.
Oui, mais tout simplement parce qu'il était formé à l'espagnol. Donc les codes, il les a.
C'est vrai.
Je dirais que c'est un joueur qui a toutes les qualités requises aussi pour pouvoir s'adapter dans n'importe quelle formation.
Il joue presque à ton poste, Achraf Hakimi, il est presque à l'époque.
En plus, il est, il a toute la banda derecha pour lui. Donc, tu vois. C'est une habitude du poste, mais pour moi, c'est vraiment le joueur star de cette équipe. Ouais. Mais ce qui est dérangeant, c'est que c'est joueur star, mais dans les postes reculés.
Raconte quelque chose.
Voilà, ça en dit long. À l'époque, on avait des Ibra, on avait des Cavani, on avait des Neymar, Messi, Mbappé. Et savoir qu'aujourd'hui, le fer de lance de cette équipe-là, c'est Achraf Hakimi.
Oui, bien sûr.
Ça peut être inquiétant, même s'ils ont une bonne équipe, à mon sens. Pas de stars, certes.
Ouais. C'est ça.
Il en manque. Parce qu'on a beaucoup critiqué quand on avait des stars, mais on voit aujourd'hui la difficulté qu'ils ont à sortir de ce genre de rendez-vous.
Ça manque de talent.
Et ça manque purement de talent.
Justement, je vais rester avec toi sur un joueur qui joue à ton poste de l'autre côté, Bradley Barcola. Est-ce qu'il y a un problème, Bradley Barcola, ou comme le disait Aurélien, on en a tant trop, tout simplement ?
Alors, pas du tout. Pas de problème, Bradley Barcola, parce que pour moi, c'est une pépite. Pépite, c'est un diamant brut à polir. On connaît ses qualités, on sait pourquoi le Paris Saint-Germain aussi l'a recruté. Et je pense que dans les années à venir, on va avoir de très belles choses. C'est juste qu'aujourd'hui, il est habitué à enchaîner les matchs.
Ouais.
Il faut savoir les digérer. Et c'est tout nouveau pour lui.
Ouais, mais il descend actuellement.
Avec le temps, il va s'habituer et puis on verra un tout autre Barcola, ouais. Top niveau comme on l'attend.
Il y a un petit coup de moins bien physique, un petit peu moins de confiance en ce moment, Farid, bah, sur
exactement.
Le Barcola.
Il manque d'essence actuellement. Il ne faut pas oublier qu'il y a un an et demi presque, il a failli être prêté au Servette de Genève.
Ouais.
Là, il n'a pas de concurrence non plus. Donc ça peut jouer aussi. Je pense que Fabrice le dirait très bien. Tout compétiteur a besoin de concurrence.
Ouais.
Là, il est vraiment dans une période moins bien. Mais il va revenir. Il va revenir très rapidement à son plus haut niveau et lui laisser le temps de revenir tranquillement, peut-être après la trêve.
Le dernier mot pour toi, ça va lancer notre deuxième partie. Aurélien, il n'y a pas de problème Barcola, y compris avec Luis Enrique dans son utilisation.
En fait, on l'a presque trop utilisé, mais on n'a pas le choix. En fait, Enrique, il n'a pas le choix. Le vrai problème de l'équipe, c'est que Barcola, il ne devrait pas être un titulaire indiscutable. Ouais. Il devrait être un fantastique remplaçant qui se bat, et c'est ce que je te rejoins, qui se bat pour sa place. Et là, il donnerait tout, mais il ne donnerait pas tout 90 minutes deux fois par semaine.
Ouais,
donc là, entre les matchs de l'équipe de France et les matchs du PSG...
C'est le deuxième joueur le plus utilisé derrière Hakimi.
Exactement. Voilà. Et Hakimi, il est plus âgé. Il a joué avec des très gros joueurs autour de lui. Il a fait les plus grands clubs. Je pense qu'Hakimi, moi, je pense qu'il est un peu libéré parce qu'il était pote avec Mbappé. Et surtout, il devait lui passer tous les ballons. Donc, non, mais je pense qu'il est très libre d'un coup. Donc lui, il est dans une autre phase de sa carrière. Et Barcola, c'est une folie ce qu'on attend de lui, donc j'espère qu'on va pas le cramer à Paris.
Attention, Aurélien a dit des choses qui sont importantes, mais j'aimerais vous rappeler une chose, et moi je crois que c'est pas un super sub.
Ouais.
Rappelle-toi au début de saison, il est justement super sub, et la composition d'équipe d'Enrique, c'est Mbappé à gauche,
ouais.
Colomboigny devant et Ousmane Dembélé à droite, et pendant un certain temps ça marque, mais il n'y a pas satisfaction totale.
Ouais, il manque quelque chose.
Il manque quelque chose.
Barcola sur la fin de...
Exactement. Il change son système en mettant Mbappé en pointe, Barcola à gauche, parce qu'on attendait un peu plus de Colomboigny.
Mais un joueur de rotation, en somme. Quoi.
Oui, mais qui ne joue pas tous les matchs.
Mais ce que je veux dire, c'est que ce changement-là montre aussi que Enrique le voit tous les jours d'entraînement. Donc, il méritait sa place de titulaire à ce moment-là.
Bien sûr.
Et il a gagné sa place de titulaire.
Il a pris vite.
Et moi, je pense que... peut-être qu'on va un peu trop vite avec lui, mais oui et non, parce qu'aujourd'hui le football d'aujourd'hui fait que t'as 19 ans, si t'es bon tu joues pour un année,
il n'y a plus d'âge.
Voilà.
On va se quitter quelques instants et on va revenir pour notre grand débat du lundi autour de la méthode Luis Enrique. Beaucoup de choses à dire, à tout de suite. De retour dans Cop Paris avec notre invité spécial Fabrice Pancrate, ancien attaquant du Paris Saint-Germain, Aurélien Grossman et Farid Rouas. Alors les amis, c'est pas encore l'heure du procès, mais on va quand même se poser pour tenter d'évaluer, de juger la méthode de Luis Enrique au regard des derniers résultats très compliqués en Ligue des Champions. Un petit mot déjà, Fabrice, commence avec toi sur le match à Munich où on a la sensation, tu vas peut-être me dire le contraire, que Luis Enrique s'est quand même trompé sur le plan de jeu, milieu de terrain renforcé, cette fois-ci il n'y a plus du tout de numéro 9, beaucoup de choses qui avaient changé pour Munich.
Pour moi, ce n'est pas une sensation, c'est une réalité, tout simplement. Alors, on sait qu'il est friand de ce jeu à la barcelonaise où tu n'as pas de neuf. Mais pour moi, il n'y en a qu'un seul qui s'est vraiment adapté, le faire. Et quand bien même, après tant d'années, il a cédé en prenant un land à Manchester City.
Pep Guardiola.
Voilà. Mais oui, ça s'est trompé, selon moi. Après, on est tous entraîneurs autour de cette table-là. Mais quand tu recrutes deux attaquants à plus de 150 millions d'euros les deux... Je ne comprends pas que tu ne puisses pas en aligner un dans cette rencontre-là et t'en priver, tout simplement, parce que Munich, c'est une armada. On perd 1-0, on s'en sort bien, j'ai envie de dire, parce que ça pourrait être plus. Et puis, jouer de la sorte avec les joueurs que tu as, pour moi, c'est un gâchis.
Emmanuel Petit disait après le match sur RMC, j'ai plus de, comment dire, de sentiment, d'émotion quand je regarde ce PSG. C'est aussi le sentiment qui vous a traversé.
Là, contre le Bayern, on n'a pas eu beaucoup d'émotions. Ouais. C'était quand même très triste. En effet, pas d'attaque, pas de numéro 9. C'est quand même un peu la déprime. C'est-à-dire que même nous, on se demande ce qu'il fait. Après, moi, je pense que les résultats du PSG aujourd'hui, ils ne seraient pas hyper différents avec un autre système de jeu. Je trouve qu'on n'est pas explosif. On n'est pas réaliste devant le but. Et que je ne vois pas comment on peut faire un 1-1 contre Nantes et battre le Bayern. Enfin, à un moment, il faut être réaliste. Aujourd'hui, on n'a pas les joueurs. C'est pas que l'entraîneur. Il manque une folie dans cette équipe.
Exactement.
Il n'y a pas un problème aussi d'ADN, Farid, d'entêtement sur certains préceptes de Luis Enrique. On parle du numéro 9, l'ultra polyvalence chez les joueurs. Est-ce qu'il est trop rigide, Luis Enrique ?
Je ne sais pas s'il est trop rigide ou trop perfectionniste, trop exigeant. Il veut mourir avec ses idées, ouais. J'espère quoi, au parc et au Paris Saint-Germain. Il va vivre avec ses idées. Moi, je pense toujours que c'est le coach idéal pour le Paris Saint-Germain. J'aimerais juste revenir sur les émotions. Moi, à partir du moment où je regarde un match du PSG, j'ai des émotions. Donc, de colère, de peur.
Oui, tu as une fibre.
J'ai des émotions. Donc après, pour revenir au match du Bayern de Munich, oui, il a fait un choix avec 4 joueurs au profil identique au milieu, 2 ailiers. C'est le seul fautif, c'est lui. Il l'a reconnu. Il s'est trompé. Et puis, il ne faut pas non plus oublier que dans les 3 défaites qu'on a connues en Ligue des Champions, c'est Arsenal, Atlético Madrid, Bayern Munich, 3 cadors européens. Donc, voyons la fin de ce championnat. Et tout est possible avec Salzbourg.
Fabrice, petite question. Tu aurais pu jouer dans une équipe de Luis Enrique. Tu aurais pu jouer latéral, milieu, ailier, comme il aime.
Polyvalent.
Ouais, je me serais adapté. Je pense que je serais adapté parce que dans le foot moderne, tu es obligé d'être polyvalent. Tu ne peux pas être positionné à un seul poste. Je pense que j'aurais pas eu de soucis de ce côté-là. Après, moi, quand pour revenir à ce que tu dis, il manque quelque chose dans cette équipe. Il y a quelque chose qui est parti. Depuis le début de QSI, on a eu du Ibra, du Cavani, du Thiago Silva, Thiago Motta, après la suite, Neymar.
C'est des stars qui manquent ou des joueurs plus adaptés à ce que veut
et
ce que
joueurs
mais attention, les stars, elles ne sont pas stars par hasard.
Oui.
Elles sont stars parce qu'elles ont du talent. Elles sont fortes, il y a de la magie dans ce qu'on veut. Rappelle-toi les années Laurent Blanc, ça joue au ballon, même s'il y avait des stars. Même si ça jouait à 15 derrière, des fois, ils mettaient les buts aux équipes, ils perçaient quand même.
Mais est-ce que Kimmich, Alvarez sont des stars? Est-ce que ces deux joueurs-là, si tu les mets dans l'effectif de Luis Enrique, ça change pas un petit peu tout? Parce qu'en off, on entend que Luis Enrique n'est pas complètement satisfait de cet effectif.
Alors, je suis pas sûr que ça change quelque chose, parce que quand tu vois l'effectif de Paris... Pour les enlever, moi, João Neves, c'est très bien. Vitinha, c'est très bien, c'est le même style. Mais rappelle-toi, les autres équipes, Bayern, Paris les battait. Comme on a dit, Atlético Madrid, c'était à leur portée. On n'avait pas peur, ils les battaient. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on a perdu contre eux. Oui, c'est des grosses équipes, mais il fut un temps, c'était des grosses équipes qui étaient à la portée de Paris. Et Paris, les battait. Aujourd'hui, on sent cette impuissance... dans cette équipe-là, il manque de la magie, il manque une force de frappe devant, même sur les ailiers, à tout niveau. Et ça, tant que tu l'as pas, comme tu dis, tu aurais pu jouer 150 ans hier contre Nantes.
On n'a pas mis de but.
Luis Enrique et le vestiaire, ça se tend ces derniers jours. C'est ce que nous rapporte Fabrice Hawkins pour RMC. Décision incomprise, décision jugée injuste. Le management, là, je parle plus de tactique, mais humain de Luis Enrique. Est-ce que là aussi, il est trop rigide? Je repose la question.
Oui, il est peut-être autoritaire, cassant. Mais on savait, lorsqu'on l'a pris, comment il était, humainement. Il est là pour faire progresser son groupe. Et je pense qu'il va les faire progresser. Après, je ne suis pas dans le vestiaire, donc je ne sais pas ce qui s'y passe. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Pour moi, c'est toujours le coach idoine. Là, on connaît une tempête et il faut être à 200% derrière le club.
C'est aussi un management différent, Aurélia, et les supporters s'en sont plaints, des entraîneurs précédents, Pochettino, Galtier, pour ne citer qu'eux, qui n'arrivaient pas ou ne pouvaient pas prendre ces responsabilités-là.
Oui, enfin, la réalité, c'est que les entraîneurs d'avant, ils avaient des stars et des énormes talents face à eux. Donc, on disait, alors, ils n'ont pas le niveau de gérer des stars. Et là, on a un entraîneur qui a, en effet, sûrement beaucoup d'ego et d'autorité, mais qui serait peut-être mieux compris aussi par des gens avec un grand talent. Parce que là, on a beaucoup de joueurs en devenir ou des joueurs qui sont régulièrement blessés. J'ai l'impression qu'on a deux groupes de joueurs. On a les joueurs qui reviennent tout le temps de blessures et puis on a les joueurs qui sont en progression parce qu'ils débutent. Et face à quelqu'un qui est hyper exigeant, c'est pas évident. Je trouve que c'est plus l'adéquation entre l'équipe. De toute façon, je trouve qu'il y a pas du tout d'adéquation entre l'équipe, l'entraîneur et le projet du club. Je trouve que là, on est face à.
On va faire le procès plus tard, mais ça sera celui de Luis Campos.
Oui, mais c'est de Campos, de Nasser, en fait, de QSI. Il y a vraiment une inadéquation, je trouve, totale en ce moment.
Fabrice, toi, tu as connu des entraîneurs aussi de caractère au Paris Saint-Germain. Je crois Alilodzic, Guy Lacombe. Faut être un petit peu. Comme ça, caractériel pour être entraîneur du PSG? Pas forcément.
Les résultats, ça aide toujours. Tu peux être caractériel, mais si demain, tu as des résultats, tu oublies vite fait le caractère de qui t'entraîne ou qui tu joues. C'est vraiment un facteur déterminant. Maintenant, c'est vrai que oui, des fois, ça peut aider parce que quand tu es dans le dur, il faut une certaine pointe pour remonter les troupes.
Ouais.
Et des fois aussi, ça dépend qui tu es en fonction du profil. Ça peut te galvaniser comme ça peut te rabaisser. Ça dépend qui t'est en face de toi. Maintenant, est-ce que là, le style Enrique, s'il est trop poignant, je pense qu'à ce niveau-là, ça ne joue pas pour moi.
Ouais.
C'était toi qui es sur le terrain, c'est ton jeu, ta qualité technique qui fait la différence et ta qualité physique. Maintenant, après, si demain, tu es confronté à une tactique qui ne marche pas, là, oui, là, tu dois sortir tes gonds et dire ce qui ne va pas pour essayer de changer la tendance.
La méthode Luis Enrique est passée au crible parce qu'en Ligue des Champions, on va avoir le classement. Le PSG est en grande difficulté. 25e après 5 journées. Il reste 3 matchs aux Parisiens, Salzbourg, City et Stuttgart pour accrocher la 24e place au moins. Mais si le PSG devait s'arrêter là, on va déjà voir ce qu'en pense le président Nasser Al-Khelaïfi. C'était il y a une petite dizaine de jours à RMC. Il arrive, le président, sur le maintien de Luis Enrique. Est-ce qu'on l'a ou pas? Allez, président.
On ne change rien.
Quoi qu'il arrive,
on sort, on gagne. C'est exactement la même chose. Pour moi, comme j'ai dit, on construit la base aujourd'hui avec le coach. On a beaucoup confiance de le coach. Il a fait très bon travail avec le sport advisor Luis Campos pour choisir les joueurs.
D'ailleurs, est-ce qu'ils vont prolonger les deux que vous les citez?
J'ai confiance, oui.
Aurélien Farid, est-ce que si le PSG est éliminé en Ligue des Champions avant les matchs à élimination directe, vous continuez à faire confiance, toi t'as à moitié répondu, Farid, à Luis Enrique?
Oui, moi je pense qu'il faut toujours faire confiance à Luis Enrique. Après, je ne peux pas présager de l'avenir. Selon Opta, on a 55% de chances de se qualifier au barrage, certes avec un match retour. Attendons, n'allons pas trop vite en besogne. Il y a Salzbourg et ensuite Stuttgart. Ouais. Je rappellerai également quand même que le Paris Saint-Germain, l'effectif, l'un des plus jeunes de la Ligue des Champions, 23 ans de moyenne, avec Sturm Graz et Salzbourg.
Ouais.
Donc pour moi, tout est possible encore.
Aurélia, est-ce que c'est... Bon, on va faire simple. Est-ce que c'est toujours le bon entraîneur pour le Paris Saint-Germain, Luis Enrique?
Aujourd'hui, oui. Je ne vois pas qui on pourrait avoir de mieux là tout de suite demain. Il n'y a personne qui est disponible. Donc,
Zidane.
Non.
Fabrice, c'est un nom.
Ouais. Après, ce serait du même acabit de Luis Enrique. Je dirais, ce serait peut-être un peu trop tôt de juger, même s'il a déjà fait une saison. S'il y a des conclusions à tirer, ce sera peut-être en fin de saison.
Ouais.
Mais si je dois tirer un entraîneur à qui on peut donner une chance et
quel suspense
Ouais, oui. C'est Conte Sao.
Ah oui, Sergio Conte Sao, Philippe, qui était annoncé.
Comme les Portugais sont à la mode, avec Amorim à Manchester United.
C'est pas la même conception de jeu que Luis Enrique.
Ouais.
Mais aussi exact, non?
Mais j'aime beaucoup cet entraîneur.
Ouais.
J'aime beaucoup, il a une philosophie de jeu qui me plaît. Mais bon, je ne suis pas là pour faire le procès d'Enrique, on verra en fin de saison.
Bon, on va voir le résultat du sondage. On vous a demandé sur le hashtag Cop Paris si Luis Enrique était toujours le bon entraîneur pour le PSG. Bah, c'est un petit non, 52%
entre
vous. C'est mitigé, mais
oui.
Voilà, il y a un débat qui estime que l'entraîneur espagnol n'est plus le coach idéal pour le PSG. Nouvelle coupure pub, les amis, on se retrouve dans quelques instants pour évoquer l'avenir du PSG qui s'écrit, c'est de plus en plus clair, ailleurs qu'au Parc des Princes. À tout de suite. De retour dans Cop Paris avec mes deux chroniqueurs du soir, Farid Rouas, Aurélia Grossman et notre invité spécial Fabrice Pancrate, ancien attaquant du PSG. Je vous donne juste la news, ça vient de tomber, tirage au sort de Coupe de France, 32e de finale qui aura lieu en décembre, pour une fois 21-22 décembre, Lens PSG, gros tirage pour le Paris Saint-Germain.
Ouais, gros.
Ça ne plaît pas, Fabrice, le Lens PSG?
Non, ça ne me plaît pas, c'est trop tôt.
Ouais.
Trop tôt, une grosse affiche comme ça, même si ça va faire plaisir aux téléspectateurs, mais... j'aurais préféré qu'ils prennent un petit poussé, comme on va dire, et puis que progressivement on arrive sur la fin, même si le charme de la Coupe de France, certains diront.
Ça rajoute en plus un gros match parce qu'il y a Monaco, enfin il y a Lyon, Monaco et Lens dans l'ordre, après Salzbourg.
Exactement, un gros calendrier en perspective.
Ouais.
Tant mieux, on finira parfaitement d'ici la fin de l'année.
Ouais. Sur les genoux.
Bon, je sais que tout ce temps que vous êtes autour de ce plateau, c'est un sujet qui vous attriste, qui ne vous laisse pas indifférent, le dossier du futur stade du PSG. Le président Nasser Al-Khelaïfi l'a réaffirmé il y a quelques jours, le PSG et le Parc des Princes, c'est fini, on l'écoute et on en débat juste après.
Si vous me dites mon cœur décide avec mon cœur, on ne part pas. Mais aujourd'hui, avec la tête... Tout le monde est là en stade, on regarde en Europe, 100 000, 80 000, 90 000, ont besoin, sinon on est mort. On n'a pas de solution, l'autre solution.
Donc vous allez partir. À contre-cœur, vous allez partir. Bah. Oui.
Bah, oui.
Ça vous étonne encore, ce genre de déclaration, ou c'est la suite, l'issue logique de ce bras de fer ?
Moi, ça me rend folle, hein, carrément. Donc, moi, j'entends parler Nasser et je ne comprends absolument pas ce qu'il raconte. D'abord, on n'est pas un pays, une ville de foot. Il faut quand même dire que régulièrement, à part quand on a eu la période, on va dire, allez, Neymar-Messi, qui était vraiment... C'est Neymar-Messi qui faisait qu'on avait le stade plein que les gens revendaient leur place une fortune. La réalité, c'est qu'en dehors de ces deux, trois années-là, tous les matchs en plein hiver contre des petites équipes, c'est pas plein. Que Paris, quand il y a un jour de match, tout le monde n'est pas en maillot. On n'a pas une culture foot. On supporte le PSG quand il arrive en quart ou en demi-finale de la Ligue des Champions.
Si je te suis, un stade de 80 000 places,
ça n'a aucun sens. Surtout que là, j'ai essayé pour la première fois de revendre une place. J'y suis même pas arrivée. Je veux dire la réalité. Non, mais la réalité, c'est que on remplit pas ce stade aujourd'hui. Que ils ont un projet, je trouve, qui est complètement incohérent, puisque on mise sur des jeunes joueurs, on a plus de stars, mais on veut remplir 80 000 personnes. C'est pas possible. Et puis on va être honnête, qui va aller dans les Yvelines en semaine ou en plein week-end avec en fait, ça n'a pas de sens. Et puis Paris, c'est pour ça que ça s'appelle Paris, c'est dans Paris. Et on est déjà dans le 16e et on remplit pas. Il faut imaginer. C'est-à-dire que là, les Parisiens se déplacent. Et surtout, tout leur projet, il faut quand même être honnête, c'est aussi d'avoir quand même des espèces de salons privés qui coûtent une fortune. Alors, les salons privés, moi, je connais les gens qui y vont. Je peux vous assurer qu'ils n'iront pas à Montigny-sur-Orge ou dans les Yvelines.
Vas-y, Farid.
Non, mais par rapport à ça, je me dis que rien n'est figé. Il y a eu quand même ces dernières semaines une annonce positive, le retrait d'Anne Hidalgo en 2026. Donc je me dis
c'est loin 2026, encore faut-il que le PSG ne tranche pas d'ici 2026.
C'est peut-être loin, il ne faut pas oublier que le Paris Saint-Germain, depuis que les Qataris sont arrivés, ils ont fait plus de 80 millions de travaux de rénovation. C'est un stade qui, à guichet fermé, tourne autour de 47-48 000. Alors que...
Il n'y a plus de réunions aujourd'hui autour de la rénovation, l'agrandissement du Parc des Princes. Selon nos informations, les seules réunions, c'est sur le déménagement.
Bon, moi je reste positif. Ouais. Moi j'ai quand même bon espoir que ce club reste au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain reste au Parc des Princes. C'est l'âme, c'est l'ADN de ce club. Et il faut que le Paris Saint-Germain reste au Parc des Princes.
Tu imagines le PSG sans le Parc des Princes, le Parc des Princes sans le PSG ?
Un faux ou un tox ? Parce que c'est pas un jeu de paroles, conversation, pour essayer de faire flancher un camp à l'autre. Pour moi, bien sûr, l'histoire s'écrit au Parc, bien entendu. Depuis la création du club jusqu'à aujourd'hui. Après, il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas, d'un point de vue politique, d'un point de vue financier, économique. Si on avait tout ça, bien sûr, on pourrait avoir une décision tout autre. Mais pour moi, bien sûr, ça se passe au Parc.
Toi, en tant qu'ancien joueur, l'histoire, l'ambiance, les virages, je sais que c'est quelque chose pour lequel tu étais assez sensible.
Le Parc, moi, j'ai connu des ambiances au Parc. Avant le plan Le Prou, et tout, c'était magnifique, c'était une bonbonne, c'était le feu.
C'est vrai que milieu des années 2000, t'as vécu une belle période aussi.
C'était le feu, le Parc. Quand les gens venaient au Parc, ils avaient peur de jouer. Et les deux copes sont envoyés là-bas, même si on a eu des désagréments par moment, mais tu t'entendais pas parler, c'était le feu, tout simplement. Ouais. Maintenant, une petite... S'il cherche à construire son stade... Il y a le maire d'Aulnay-sous-Bois qui a parlé la dernière fois.
Il y a une belle communication du côté d'Aulnay-sous-Bois.
Ils peuvent aller le construire là-bas, il y a tout. Bon.
Ouais, mais la tristesse quand même de cette décision-là, c'est qu'elle est aussi beaucoup liée, non pas aux sportifs, mais elle est liée aussi à l'idée de faire une espèce de PSG Land avec des galeries commerciales autour. Ouais. Donc en fait, ils ont réussi leur coup, ils ont fait du PSG une marque. Ils veulent maintenant, commercialiser.
Un bout des propos là qu'on vient d'entendre de Nasser Al-Relaifi, quand Nasser nous dit c'est une question de vie ou de mort pour le Paris Saint-Germain. C'est vrai ou...
Ah, c'est pas vrai du tout, non. Puisque les revenus du Paris Saint-Germain ne dépendent absolument pas de la billetterie. Ça, c'est un mensonge
éhonté.
C'est
l'un des stades les plus rentables d'Europe.
Exactement, c'est un mensonge. C'est-à-dire que ce qu'ils font avec les maillots, la marque, les tournées et tout, c'est bien supérieur. Donc en fait, tout ça, c'est du vent. Eux, ils se servent du PSG en plus pour faire une espèce d'image, de politique. Donc je pense que c'est un bras de fer qu'ils ne veulent pas lâcher. Ils ont envie de construire...
Qui n'est pas terminé.
Ils veulent veulent construire un PSG Land, c'est ça la réalité, c'est pas juste qu'ils veulent 80 000 places, ils veulent pouvoir construire autour. Et le Parc des Princes, il est classé, on peut pas lui rajouter des galeries.
C'est une nouvelle conception de l'expérience supporter, ce PSG Land. Enfin,
non, c'est la perte de l'expérience vraiment football pour aller vers une expérience de touriste. Quoi. Enfin, c'était ce qu'ils aimaient d'ailleurs quand il y avait Messi et Neymar. Moi, j'avais que des touristes autour de moi qui arrivaient au bout de 20 minutes, qui se filmaient, qui repartaient avant la fin du match. Enfin, c'est une autre vision.
Quand même, Aurélia, Fabrice, Farid, qui pourraient avoir grâce à vos yeux si le Paris Saint-Germain devait quitter le Parc des Princes.
Jamais.
Jamais, on a compris pour Aurélia. Farid, lui, croit encore au maintien au Parc des Princes.
Exactement, mais surtout...
Fabrice, il nous a parlé d'Aulnay.
Ouais, parce que.
Toi, en tant que.
Non, parce que moi, je viens d'Aulnay sous bois et de Villepinte. Donc, voilà, je connais très bien le truc. Après, parce qu'il faut oublier une chose, hein, les supporters d'Auteuil, majoritairement, c'est d'où ils viennent. C'est tous des mecs d'Aulnay sous bois.
Ouais, ouais.
Et la majorité. Du Grand Trévès, c'est ça qu'il faut savoir aussi. Mais ça, c'est une petite parenthèse.
On parle aussi de Gonesse dans le 80.
Voilà, aussi. Comme l'a dit Aurélia. Bon, c'est vrai, la raison sur un point, c'est que. C'est pas la billetterie qui va faire que voilà, le stade va, etc. Mais on est dans une phase où ils veulent concurrencer
les
plus grands,
normal.
Avec les technologies d'aujourd'hui, avec les revenus aussi extérieurs qui pourraient arriver, plutôt que de sortir toujours l'échec de la caisse, l'échec, etc. Donc on peut le comprendre. Mais
ils n'ont pas la bonne stratégie.
Le parc est classé, tu ne peux pas ouvrir.
C'est de construire un club de foot, en fait. On a un problème. C'est-à-dire qu'on a empilé les stars à un moment. On avait des doublons à des postes complètement absurdes. Après, on n'en a plus du tout. On a
c'est
une espèce
caprice,
de...
c'est quelque chose de...
Non, mais Nasser...
égotique de la part des dirigeants de vouloir
leur stade sent...
en être propriétaire.
Oui, et puis on sent que Nasser, pareil, via... Parce qu'il y a Campos qui recrute de son côté, mais il y a aussi Nasser via Moussa Sissoko qui recrute en direct à Doha. Enfin, il y a une espèce de toute façon de direction bicéphale, avec en plus des gens qui ne connaissent rien au foot et qui n'ont toujours pas appris. C'est-à-dire, par exemple, ils n'ont pas compris le poids des supporters et qu'on ne gagne pas des grandes compétitions sans les supporters. Nous, on est extrêmement maltraités dans les gradins. Je veux dire, moi, ça fait... On était quatre, on n'est plus que deux. Ça fait 6 ans que je leur écris par écrit, que je me déplace, que j'envoie des mails pour dire on a envie d'être à côté, mon ami et moi, parce que maintenant, il y a un trou entre nous, il y a quelqu'un. Et on ne peut même pas discuter, je n'arrive pas à communiquer. C'est-à-dire que les supporters historiques, ils s'en fichent totalement.
Oui, la base des supporters veulent rester au Parc des Princes.
Et les supporters veulent rester... En fait,
est-ce
ils ne nous écoutent pas du tout.
Pas sur une
mais moi, je pense qu'ils ont envie qu'on s'en... Mais bien sûr les supporters que... Voilà, les nouveaux supporters...
Attendez, on va parler juste pour terminer et refermer le débat. Il y a un autre club dont on parle beaucoup aujourd'hui à Paris, le Paris FC, qui joue pour l'instant à Charletti, qui veut peut-être aller à Jean-Bouin, peut-être un jour le Parc. Est-ce qu'il y a un risque de scission, de voir certains supporters se rabattre sur le Paris FC?
Non, je pense pas. Non. Je pense pas.
Quand t'as ton identité.
Chaque supporter supporte son équipe. Ouais. Et je leur souhaite au Paris FC de monter en Ligue 1pour avoir de vrais derbies comme il se doit. Mais le Paris FC aura son terrain et le Paris Saint-Germain gardera le Parc des Princes.
Fabrice, toi, tu vas encore régulièrement au Parc des Princes, tu y étais samedi soir.
Bien sûr.
Tu serais prêt à aller, alors on ne parle pas de l'ancien joueur là, mais du suiveur, du supporter, de l'ancien joueur, aller à 30, 40, 50 km de Paris pour voir le Paris Saint-Germain dans un nouveau stade?
Bien sûr. Moi, mon rêve, c'est que ça reste au Parc, mais comme l'a dit Farid, quand tu es supporter, comme t'aimes ton club, même si ça te fait chier, ben, c'est le maillot que tu supportes et tu vas aller suivre, tout simplement. Maintenant, ça serait beau, franchement, que le PFC monte. Que PSC soit à Jean-Bouin et t'as
le parc derby le plus
deux stades là. Ce serait magnifique.
Aurélia, toi, t'y vas pas, on a compris.
Non, moi, j'y vais pas, mais en plus, moi, j'y vais pas, c'est pas juste le stade, c'est leur projet qui me va pas. C'est-à-dire ce projet de nous vendre des burgers, avec des QR codes. Enfin, je veux dire.
Avec ta manucure.
Mais c'est n'importe quoi. Non, mais c'est ça. C'est devenu complètement délirant. Et en fait, l'essence de ce qu'est un supporter, de chouchouter les supporters historiques, je veux dire, il y a énormément de choses en ce moment qui énervent beaucoup les supporters. Il y a des banderoles politiques, il y a des gens qui sont interdits de stade, on sait plus pourquoi.
Enfin, moi, je trouve que sur le stade, pour refermer, après, on va aller voir le calendrier. La grogne n'est pas immense pour l'instant.
Mais non, mais parce que les trois quarts des supporters historiques n'ont même plus les moyens de se réabonner. Il y a quand même un vrai souci au sein de ce stade. Moi, je connais un nombre de gens qui ont été sortis au moment du plan Le Prou et qui depuis ne peuvent plus revenir.
Je me souviens de l'affront de fin des années 90, à l'époque du Stade de France. C'était autre chose.
Bah oui, mais en fait, tous ces gens-là, ils râlent devant leur télé maintenant. Donc ils...
Bon, beaucoup plus proche pour le PSG, c'est le calendrier des trois prochains matchs. Auxerre-PSG, ce sera vendredi prochain à la Baie des Champs, quatre jours avant un déplacement, cette fois-ci on peut le dire capital, face à Salzbourg. PSG-Lyon, ce sera le 15 décembre au Parc des Princes. On passe tout de suite à l'Omnisport, les résultats du week-end de vos clubs franciliens avec Maxime Montiou.
Le Stade français Paris n'y arrive toujours pas à l'extérieur. Cette fois-ci, c'est sur la pelouse de Bayonne que les hommes de Laurent Labitte se sont inclinés. Une défaite 21-13, la sixième en six matchs en dehors du Stade Jean-Bouin. Au classement, les Parisiens sont 12e, un point devant le loup barragiste. Petite pause en top 14 désormais, place à la Champions Cup avec les deux premiers matchs sur la pelouse du Munster, puis à domicile face aux Saracens. Et de 11 pour le Paris Basketball. Les matchs se suivent et se terminent par des victoires depuis le 29 octobre pour les Parisiens qui viennent donc d'enchaîner 11 succès consécutifs, toutes compétitions confondues. Le dernier date de samedi à l'extérieur au Portel. Mené à la pause, les hommes de Thiago Splitter s'en sont remis encore une fois à un grand Nadir Ifi, auteur de 25 points pour s'imposer au final 87-78. Au classement, Paris reste deuxième, juste derrière Cholet. Du côté du hand, c'est 12 sur 12. Le PSG continue son carton plein en championnat. Cette fois-ci, la victime s'appelle Cesson Rennes. Pourtant mené d'un but à la pause, le club de la capitale a rendu une copie parfaite en seconde période pour s'imposer 35-29 grâce notamment aux 5 points de Luke Staines. Le PSG est évidemment en tête du classement avec 2 points d'avance sur Nantes.
Comme Paris, c'est déjà fini. Un immense merci à Fabrice Pancrate.
Merci à vous.
Fabrice, tu nous as régalé. Tu reviens quand tu veux sur le plateau de Cop Paris. Merci à Aurélia Grossman et à Farid Rouas. Merci également à Jordan Le Sueur à l'édition. Je vous rappelle que Cop Paris est dispo en replay, en podcast sur l'appli RMC BFM Play, le site web de BFM Paris et le TikTok de l'émission. Très belle semaine à tous. Prenez soin de vous et on se retrouve lundi prochain. Ciao, ciao.